Il est 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées avec vous Jacques Migné, bonjour.
Bonjour Sophie Delpont.
En plein débat sur l'injustice fiscale, les économistes, s'interrogent sur la meilleure manière d'améliorer la progressivité de l'impôt.
Oui Sophie, a commencé par la création d'une nouvelle tranche pour les plus hauts revenus, une idée avancée notamment par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, aussitôt rejetée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire au motif que les Français qui touchent 2 500 euros par mois ne devraient pas voir leur impôt augmenter. Les décodeurs du quotidien Le Monde montrent que l'argument est fallacieux car il concerne les 20% les plus riches parmi lesquels 10% émargent bien au-delà de 2 500 euros mensuels, pas loin du double en moyenne. Encore s'agit-il du niveau de vie rapporté à la taille du foyer et pas seulement du salaire. Pour l'INSEE, un salarié qui vit seul et gagne 2 500 euros par mois se situera dans les 20% les plus riches. Mais un couple doit cumuler 5000 euros de revenus mensuels pour être considéré de la sorte, et même 6 500 euros s'ils ont 2 enfants. Les notions de classe moyenne et de riche sont suffisamment vagues pour alimenter la confusion. Alors que Laurent Berger proposait de créer précisément donc une nouvelle tranche à un taux supérieur au taux le plus élevé actuellement de 45% et qui concerne la part des revenus supérieurs à 13 000 euros mensuels. Il évoque un taux donc de 60% et qui viserait donc des revenus encore bien plus élevés que 13 000 euros mensuels. Pour ces sujets complexes, la bonne information est essentielle. Dans les pages idées du quotidien consacrées à ces questions, l'économiste Stefania Stancheva cite une étude sur la perception et la réalité des inégalités qui montre que la demande de progressivité de l'impôt et de redistribution augmente lorsque les personnes sont informées de la réalité de la répartition des revenus dans leur pays. Et aussi que plus l'impression d'ascension sociale est faible, plus la demande de redistribution est forte. Sauf si la question de l'immigration intervient, plus on y est hostile, moins on est favorable à la redistribution, les immigrés étant alors perçus comme plus nombreux, moins qualifiés, plus pauvres et plus souvent musulmans qu'ils ne le sont. Conclusion de l'économiste, évoquer le danger de l'immigration est donc le moyen de faire reculer la demande de progressivité de l'impôt et de faire accepter une diminution de la redistribution fiscale. Alternatives économiques publie un hors-série sur l'économie en 2019. 3 économistes de l'OFCE, Pierre Madec, Mathieu Plane et Raoul Samponiaro, dressent un état des lieux suite aux mesures du gouvernement pour augmenter le pouvoir d'achat. Et d'abord, un constat, il a diminué ce pouvoir d'achat de 1,2% au cours des 10 dernières années, contrairement à la décennie précédente où il avait augmenté de 15%. La crise de 2008 est passée par là, ainsi que la dégradation du marché du travail et notamment l'augmentation des contrats courts ou à temps partiel, mais aussi le choc fiscal mis en œuvre au tournant de 2010, hausse des prélèvements obligatoires sous la pression des marchés financiers et des règles budgétaires européennes, de la TVA, de la fiscalité locale, écologique et des cotisations sociales des salariés, ont fait apparaître un découplage entre les ménages et les entreprises, bénéficiaires quant à elles du CICE, du pacte de responsabilité et de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Paradoxalement, cette politique a pesé sur le pouvoir d'achat, mais elle a aussi renforcé le caractère redistributif du système en mettant largement à contribution les ménages les plus aisés. Reste que les mesures fiscales récentes, comme la baisse de la taxe d'habitation et des cotisations sociales, n'ont pas suffi à compenser l'effet négatif de la hausse de la fiscalité indirecte, tabac et écologie notamment, et de la CSG. En matière d'économie, les politiques exploitent les résultats de la recherche à la façon dont un ivrogne utilise un lampadaire pour s'appuyer dessus, pas pour s'éclairer, estimait l'économiste Jared Bernstein. La dernière livraison de la revue Regard croisé sur l'économie, publiée par La Découverte, porte sur les croyances et les rationalités dans cette science fortement mathématisée et statistique qui rechigne à s'afficher dans le cadre des sciences humaines du fait de sa prétention à la scientificité des sciences exactes, mais qui ne laisse pas de comporter de nombreux biais idéologiques, voire sentimentaux, si l'on pense à l'attachement au libéralisme ou à la théorie du ruissellement. Un champ intellectuel traversé de nombreuses controverses et de salutaires débats, des jeux à somme nulle que nous finissons par arbitrer à nos corps défendants. L'édito du d'un riche numéro donc de cette revue pose la question: l'économie ne nous raconterait-elle pas des histoires? Alors en voici une. Au premier jour, Dieu créa le soleil et le diable créa les coups de soleil. Au second jour, Dieu créa le sexe et le diable créa le mariage. Au troisième jour, Dieu créa un économiste, le diable réfléchit et en créa un second.